ça qu'on va traiter ensemble, parce que finalement, le fonctionnement de ces deux sous-épreuves ou épreuves est assez proche, en tout cas dans l'esprit. Le point de départ de cette affaire, c'est la situation professionnelle. Un ensemble de travaux qui répondent à une même problématique de gestion, ou un même problème de gestion, qui ne sont pas forcément du même processus d'ailleurs. Donc on a un même contexte.
Bon, si vous avez une solution à nous proposer, ça sera super. Hein, parce que là, c'est dommage, on est en attente.
On peut appeler des activités de différents processus. Ensuite, une situation professionnelle nécessite la mise en œuvre de ressources documentaires, des données de la situation.
420.
Et de mettre également en œuvre une démarche. Il y a une démarche qui est mise en œuvre par le candidat. La situation professionnelle implique tous les temps de la formation. Donc dans les situations professionnelles, on peut avoir des situations professionnelles qui viennent des temps de cours liés à un processus, qui viennent des ateliers professionnels, mais aussi qui peuvent venir des stages, par exemple. La question m'a été posée ce matin. On a une visée opérationnelle. L'objectif, c'est quand même de résoudre au moins fictivement la mission, les missions ou le problème de gestion auquel les candidats sont confrontés, ont été confrontés. Et puis, il y a une période donnée. Voilà, on essaye d'encadrer au moins dans le temps la portée de la situation professionnelle. Donc c'est le point de départ de tout ce qui va se passer maintenant, en tout cas sur les épreuves E4, E2, E5 et E6. Ce sont des épreuves, des moments d'évaluation qui vont porter sur des situations professionnelles. Un point par rapport au grain, ce que j'appelle le grain de la situation professionnelle. L'objectif, c'est quand même bien de montrer que le travail du comptable à Bac+2 nécessite la mise en place de démarches, nécessite d'ailleurs d'intégrer, d'associer différentes activités d'un même processus pour montrer comment les activités s'enchaînent les unes aux autres dans un même processus, pour montrer peut-être le parallélisme. Sur les travaux de fin d'exercice, on a fait le choix de scinder P2 en activités qui ne sont pas forcément successives l'une de l'autre, mais qui pourraient être traitées en parallèle. Et puis, et donc tout ça nécessite effectivement que la situation professionnelle ait un grain, une épaisseur, une complexité relativement épaisse pour permettre au candidat, à l'étudiant, de bien repérer à la fois ses enchaînements, ses articulations. Donc le grain, c'est certainement pas la composante d'activité ou la compétence, c'est beaucoup trop fin. Ce matin, des professeurs m'ont indiqué le nombre de compétences, alors que je me suis jamais attaché à compter le nombre de compétences que l'on avait. On a 141 compétences, il ne s'agit surtout pas d'avoir 141 situations professionnelles, une situation professionnelle par compétence, c'est surtout pas l'objectif. On a une situation professionnelle qui permet d'associer au moins plusieurs activités. Dans les cas du CRCF, vous voyez qu'effectivement, on a un grain qui est relativement épais et qu'un contexte produit par les collègues du CRCF permet de mobiliser des compétences issues de plusieurs activités ou associées à plusieurs activités et parfois à plusieurs activités de différents processus. Voilà, donc... Tout ça, je suis un peu long sur ce rappel parce qu'il me semble que beaucoup de questions qui se posent au travers de ces épreuves, 42, 5 et E6 d'ailleurs aussi, peuvent être traitées par un rappel de la définition de la situation professionnelle. Ce qu'on voudrait aussi, c'est que la situation professionnelle, elle associe systématiquement du P7, parce que c'est l'environnement normal de travail d'un diplômé à Bac+2, donc on est systématiquement du P7, dans la mesure du possible, le PGI, dans sa base de données, et puis les documents, les logiciels qui sont associés, donc notamment le tableur, par exemple. Voilà. Alors, les principes de ces deux épreuves E42 et E5, alors E42, c'est plus exactement une sous-épreuve et à part entière, mais leur architecture est très proche, enfin, quasiment identique. On a une situation A, donc qui est une situation par CCF, donc on a appelé ça, entre guillemets, au fil de l'eau. Et puis une situation B, qui est un temps bien marqué, donc avec un oral de 20 minutes, alors sur PostInfo, hein, dans un environnement numérique, donc pendant 20 minutes. Alors, la situation B, elle ressemble à ce que vous connaissez, alors que ce soit pour E4-2 et E5, elle ressemble dans les grandes lignes à ce que vous connaissez maintenant sur E6. Aïe, aïe, aïe. Et des en termes de compréhension, c'est la situation A. Donc on va s'attacher à expliquer clairement ce qu'est cette situation A. Et puis on reprendra également la situation B, donc à la fois sur E4-2 et sur E5. Alors, la situation A, les questions qui sont principalement posées, elles sont au nombre de 3. Voilà, la première question, sur quelle situation, alors c'est la liste de diffusion qui nous permet de remonter ces questions, c'est aussi les questions que l'on nous pose quand on va en académie, donc on va essayer de répondre assez clairement à cela. Donc la première, c'est sur quelle situation professionnelle prendre appui. Le terme de situation est polysémique, hein, on est bien sur une situation de CCF, mais on prend appui sur des situations professionnelles. Deuxième question, c'est quand évaluer et combien d'évaluations. Là, on va avoir une réponse qui est assez claire et simple. Et puis la troisième, c'est comment évaluer. Alors, la première, donc, quand et combien d'évaluations pour l'examen? Très clairement, il n'y a qu'une situation d'évaluation A. C'est à la fin de la formation, une fois que tout est terminé, ou presque, les professeurs, l'équipe professorale prend l'équipe pédagogique qui a accompagné la classe, les étudiants, se réunit et sur la base des observations qui ont été recueillies tout au long de la formation, remplit en une seule fois et une fois pour toutes la grille d'évaluation pour la situation A. Donc à la question quand, c'est à la fin de la formation, à la fin de la deuxième année. Et à la question combien d'évaluations pour l'examen, c'est une seule, à la fin de la formation, donc sur la base de toutes les observations, qui ont été recueillies tout au long de la formation, eh bien, l'équipe renseigne la grille d'évaluation associée à la situation A, donc grille que vous avez récupérée dans la circulaire nationale. Voilà. Donc, Le point d'appui, c'est évidemment les situations professionnelles. Alors, on aurait pu dire toutes les situations professionnelles, quelles qu'elles soient. Le nombre aurait été conséquent, on n'avait pas forcément trace de tout cela. Et donc, la proposition, c'est effectivement de limiter les travaux ou les observations aux situations professionnelles qui ont été décrites et analysé dans le passeport par l'étudiant lui-même. Voilà, on a voulu limiter, parce que sinon les observations auraient été très conséquentes, en nombre trop important, la synthèse aurait peut-être été difficile. Donc ce qu'on a voulu faire, la proposition, c'est effectivement de limiter les observations de l'équipe aux situations professionnelles qui ont été explicitées, travaillées, recensées par l'étudiant dans son passeport professionnel. Ça va au-delà des 3, bien évidemment, ça va au-delà des 3 qui vont être retenus dans le cadre du dossier d'examen pour la situation d'évaluation CCF, la situation B. Le candidat va en choisir 3 pour la situation B, mais 3 à choisir parmi un nombre qui est forcément plus conséquent. Voilà. Donc, parmi ces situations professionnelles qu'il a traversées, et qu'il a décrite et analysée dans son passeport, on y reviendra après, le candidat va choisir, l'équipe va observer, décrire le niveau, l'état de l'étudiant par rapport aux compétences, et puis synthétiser tout ça dans la situation, dans la grille de situation. Voilà, alors je me tourne vers Rosane pour voir s'il y a des questions sur ce point. Est-ce qu'il y a des questions?
Il y a un point de vue, trop de points accordés à la situation A.
Oui, alors l'objectif c'était de simplifier le travail du CCF. On sait bien le temps que vous passez à interroger les candidats en CCF. Là, finalement, prendre appui sur des situations, sur des observations recueillies tout au long de la formation pour la situation A, c'est finalement pour nous simplifier, alors peut-être pas dans un premier temps parce qu'il faut comprendre la logique, mais à très court terme, à mon avis dès la deuxième promotion, l'objectif c'est vraiment d'alléger la tension liée au CCF, de diminuer le temps que vous allez passer à évaluer les candidats. Finalement, pour un candidat pour la situation A, le temps pris, c'est le temps nécessaire à la mise à plat des observations recueillies par les différents membres de l'équipe pédagogique qui ont ou qui a accompagné le jeune, l'étudiant, synthèse dans le cadre de la grille. Il ne s'agit pas de multiplier des temps d'évaluation, on est bien sur une formation normale, comme vous feriez s'il n'y avait pas d'évaluation certificative à la fin, et puis de prendre en compte l'ensemble des observations pour renseigner la grille A. Dans notre esprit, enfin, ça suffisait. La situation B, elle existe à la demande de différentes parties prenantes, de membres du groupe de travail, mais aussi des OS, parce que il était souhaité qu'il y ait un temps formalisé dans le cadre du CCF. Voilà. Donc, on a une forme qui est un peu hybride. Je suis pas certain qu'effectivement sur cette première question, quand et combien d'évaluations pour l'examen. Alors, notez bien que l'on ne précise pas une quantité de situations professionnelles décrites dans le passeport. C'est au choix du candidat. D'écrire une analyse, une situation professionnelle, ça demande du temps. C'est en même temps très formateur, on y reviendra tout à l'heure, quand on parlera du passeport. Mais il n'y a pas d'objectif quantitatif, si ce n'est qu'effectivement, dans le passeport, ben, la plupart des compétences ou des activités ont été traversées par le candidat. Ouais, non, je ne les vois pas parce que je suis en plein écran.
Toutes les compétences sont évaluées, y a-t-il un minimum ?
Alors, sur cette question, il me semble qu'implicitement, il y a une précision à apporter. Très clairement, sur le cœur de métier P1, P2, P3, P4, on va évaluer tout ça sur l'étude de cas E4A. Voilà. Donc P1, P2, P3, P4, n'ayez pas de contraintes par rapport aux situations professionnelles. Globalement, tout sera balayé. Enfin, j'imagine mal qu'un professeur normalement attentif à la formation de ses étudiants puisse se dire je fais l'impasse sur une activité parce que etc. parce que de toute manière P1, P2, P3, P4 est évalué au moment de l'examen par l'épreuve ponctuelle, l'étude de cas. P7, on va l'évaluer au travers de cette épreuve E4-2. Voilà. Donc on va évaluer P7, les compétences P7, à partir de situations issues de P1, P2, P3, P4. Donc, P1, P2, P3, P4 offre le contexte. On évalue des compétences qui relèvent de P7. On va leur demander sur le dossier, le dossier pour la situation B, de choisir trois situations professionnelles qui vont constituer le dossier. Finalement, au travers de ces trois situations, il faudrait que le candidat puisse traiter la totalité du processus P7, ce qui n'est pas tout à fait impossible et infaisable. Et puis, pour l'épreuve 5, toujours, on a le fil de l'eau sur lequel on va revenir. Et puis, on a la situation B. Là encore, trois situations professionnelles. choisies par le candidat à partir de celles recensées dans son dossier, dans son passeport, et il faudrait qu'avec les trois, il puisse couvrir une bonne partie des deux processus P5-P6, puisque E5 est dédié à l'évaluation de P5-P6. Voilà, bon, sur P5, alors tout dépend de la granularité, là encore, de la situation professionnelle que vous retenez, mais ce qui me semble intéressant, c'est de ne pas découper le processus P5, qui est assez logique, P6 aussi, mais voilà, ça signifie qu'au travers trois situations professionnelles, il faudra à couvrir, dans leur grande majorité, les activités relevant de P5 et P6, ce qui ne me semble pas tout à fait infaisable non plus, sachant que le degré de couverture n'est pas un objet d'évaluation ni sur E4-2 ni sur E5. En revanche, sur E6, il peut y avoir un retour sur le parcours de formation et on pourrait très bien demander à un candidat, au travers de la deuxième partie de l'épreuve E6, pourquoi est-ce qu'il y a des lacunes, etc. ou pourquoi est-ce que telle activité n'a pas été couverte. Donc, mais on n'est pas sur des critères quantitatifs, on est plutôt sur des qualitatifs, en tout cas sur E4-2 et E5. Voilà, je continue sur E4-2 et E5 sur la situation A. Je reviens à la situation A par une deuxième question qui nous est posée. Donc, que doit-on évaluer? Alors, j'y ai presque répondu. Pour E4-2, on évalue les compétences de P7. L'objectif de E4-2, c'est bien d'évaluer les compétences P7. Mais à partir de situations professionnelles qui reprennent des activités P1, P2, P3, P4. C'est-à-dire qu'on évalue P7 dans un compte non pas hors sol. Voilà, on n'a pas de travaux P7 spécifiques hors sol, etc. Mais ce sont des travaux qui sont conduits ou des activités qui sont conduites en prenant appui sur des activités liées au cœur de métier, donc au processus P1, P2, P3, P4. E5 va évaluer des compétences qui sont issues des processus P5, P6. Si vous vous rappelez des diapos de la première présentation, on avait défini un cœur de métier autour de P1, P2, P3, P4. Et puis des activités ou des processus à haut potentiel de développement, c'est-à-dire qui permettent soit d'évoluer en termes professionnels, soit une poursuite d'études. Voilà, mais on ne commence pas a priori à les métiers de la comptabilité à Bac+2 avec des activités qui relèvent de P5, P6, sauf cas très particuliers. Donc c'est plutôt dans le cadre d'une évolution professionnelle. Donc E5 est plutôt dédié à l'évaluation de ses compétences, donc sur P5, P6 et P7, puisque P7 est systématiquement associé au processus métier, quel qu'il soit. Voilà, donc quoi évaluer? Je pense que les choses sont assez simples. Et sur quelle situation prendre appui? Donc ce sont des situations de travail, des situations professionnelles. On aurait pu être plus simple pour éviter les ambiguïtés. Donc des situations professionnelles, je corrigerai le diaporama. Vécu au cours de la formation, en établissement, en stage, seul ou en groupe, d'une complexité significative, en tout cas suffisamment significative pour qu'elle puisse être recensée dans le passeport professionnel. Voilà, donc la condition, mais vous pouvez vous en accommoder si vous voulez. Voilà, si vous avez pris des observations et que les observations sont suffisamment riches, on peut conseiller à un candidat, à un étudiant, d'intégrer cette situation professionnelle dans son passeport. Il l'explicite, etc. Mais on voulait, par cette contrainte inscrite décrite dans le passeport professionnel, éviter que pendant tous les temps de formation, vous soyez en situation d'évaluation ou de prise d'information pour la situation A. Voilà, donc voyez plutôt cette contrainte non pas comme une restriction, mais comme une expression d'une volonté de simplifier, d'alléger, autant que faire se peut, le travail de recueil d'informations, d'observations pour nourrir l'évaluation pour la situation A du CCF. Voilà, alors, comment évaluer? Alors, on l'a dit tout à l'heure, finalement, là, comment évaluer? Bon, ben, il s'agit d'évaluer dans le cadre normal de la formation. On prend de l'information dans les AP, le suivi de stage, pourquoi pas, au cours. Ce matin, la question m'a été posée d'une évaluation, d'une situation professionnelle qui prenait appui sur les stages, pourquoi pas. Ça peut même être très, très intéressant. On peut même imaginer, d'ailleurs, que on aille voir pendant le cadre du travail, pendant le stage, eh bien, les professeurs prennent des informations qui vont être restituées ou reprises au moment du renseignement de la grille d'évaluation A, à condition qu'effectivement le candidat, l'étudiant, ait pris le temps de choisir ce qu'il avait fait en stage comme une situation professionnelle qui est décrite dans le passeport professionnel. Voilà. Donc, il s'agit d'évaluer dans le cadre normal de la formation. On est à la fois sur une évaluation formative, ce que l'on fait, ce qui est le cœur du métier de l'enseignant finalement, et de nourrir une évaluation certificative. Et puis, à partir d'observations, donc situation professionnelle recensée dans le passeport professionnel, et puis des temps de communication professionnelle, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, le poids, l'importance de la communication, qu'elle soit écrite ou orale, et tout temps est significatif, pendant tout temps significatif de formation, le cours, les TD, les AP, les stages, etc., à condition effectivement que le candidat décrive cette situation professionnelle dans son passeport, enfin la recense et la décrive et l'analyse dans son passeport professionnel. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ?
Il y a une question ici.
Oui.
Ne risque-t-on pas d'avoir des difficultés à observer au fil de l'eau pour la situation A, alors que les passeports ne sont pas remplis ou que les étudiants n'ont pas encore choisi CSP ou passeport ?
Oui. Ouais. Alors, la question est redoutablement pertinente. Je ne sais pas qui pose cette question, mais Daniel Perrin-Toina. Voilà, donc on reconnaît. Mais la question s'est posée ailleurs. Effectivement, on peut se dire que le candidat, l'étudiant, va finalement choisir, une fois qu'il a vécu la situation professionnelle, choisir de la recenser, d'analyser dans son passeport. C'est vraisemblablement une démarche. On peut aussi dire aux étudiants, parce que l'exercice est nouveau, difficile, que la proposition, c'est que ce qui va être fait, eh bien, la situation professionnelle que vous allez lancer, parce qu'elle est suffisamment complexe, parce qu'elle elle correspond à la définition, parce qu'elle va permettre de nourrir la réflexion, parce qu'elle est suffisamment riche, etc., on peut suggérer aux étudiants que cette situation professionnelle peut faire partie du passeport professionnel. Et de par ce postulat, eh bien, les professeurs accompagnent leurs étudiants normalement, mais se mettent aussi en situation d'observation du travail qui est réalisé. On peut aussi avoir la logique inverse, donc c'est-à-dire laisser la main aux étudiants de choisir ou non a posteriori savoir si la situation professionnelle sera ou non inscrite dans ou recensée dans le passeport professionnel. Et de toute manière, moi il me semble que dans un mode de fonctionnement tel que celui que nous décrivons, on est dans une évaluation formative, c'est-à-dire que on prend de l'information. On prend une information et cette information sera ou non utilisée pour renseigner la grille d'évaluation A. La difficulté pour vous, pour les équipes pédagogiques, c'est qu'effectivement pour certains, des situations professionnelles pourraient faire partie du passeport pour un étudiant et non pour d'autres, et que, a priori, vous ne savez pas ce qu'ils vont en faire. Donc l'inscrire ou non dans le passeport. Moi, il me semble qu'on est en début de parcours de construction de l'expérience pour les équipes. Dire que voilà, une situation professionnelle, parce qu'elle est suffisamment étoffée, épaisse, parce qu'elle correspond à la situation et qu'elle va nourrir la réflexion de l'étudiant, ça peut être un moyen de se mettre d'accord, si vous voulez, pour les étudiants et avec vous. Je veux dire, bon, bah, ça peut rentrer dans le passeport. Et puis, bah, sachez que les observations que je peux faire vont peut-être nourrir l'évaluation de la situation A. Voilà. Donc, moi, il me semble avoir entendu, enfin, pour me déplacer un peu dans les académiques, c'était quand même un tout petit peu ce qui était fait, le rythme qui était choisi, donc d'indiquer aux étudiants que telle situation professionnelle qui allait s'annoncer pourrait figurer dans le passeport. Et donc, puisqu'elle peut figurer dans le passeport pour les étudiants, alors elle peut produire des observations qui vont être reprises dans la situation A de l'épreuve 4-2 ou 5. Voilà. D'autres questions ?
Sur Excel.
Oui, donc il y a la question sur le temps de préparation sur la situation B.
Oui.
Que j'avais répondu que les 60 secondes d'information ailleurs sur le temps de préparation.
Oui. Oui, il a. Oui, c'est ça. Quoi.
Il a pas de temps avant l'épreuve.
Il n'a pas de temps. Alors, ne vous lancez pas dans des CSF, dans des CCF blancs pour la situation B. Enfin, on va reparler de la situation B, on va finir sur A. Mais il faut alléger au maximum, redonner du temps au temps de formation. Enfin, c'est quand même l'objectif du fil de l'eau, de la situation A pour E5 et E4-2. Enfin, voilà, si j'avais un conseil à vous donner, c'est vraiment de profiter de cela pour renforcer votre regard sur le travail des étudiants, les mettre en situation de produire systématiquement, mais éviter de les préparer à une situation d'évaluation qui finalement est assez naturelle.
Ouais. Si un étudiant ne démontre pas qu'il est compétent, peut-il l'inscrire sur son passeport ? La réponse est oui.
On est compétent.
Ouais. Mais le passeport, il y a deux façons de traiter le passeport, enfin, selon. Mais en tout cas, la question, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est si un étudiant s'estime non compétent sur tel point du référentiel, ou sur telle compétence, est-ce qu'il peut l'inscrire dans son passeport ? La réponse est évidemment oui. Le passeport, c'est pas forcément tout est très bien de manière monolithique. Déjà parce que ça peut être contredit au moment des épreuves E5 et E4-2. Et puis parce que savoir quelles sont ses marges de progrès, c'est vraisemblablement une étape importante vers la professionnalité. On voudrait former des jeunes, j'ai oublié de vous le dire, mais on en reparlera davantage pour E6, des jeunes, des étudiants, des diplômés qui sont capables de dire à un moment donné que telle situation professionnelle leur a permis de déclencher telle compréhension, etc. C'est ce qu'on va leur demander sur E6. Et à contrario, s'ils peuvent affirmer ou expliquer quelles sont leurs marges de progrès, je pense qu'il y a vraisemblablement une attitude de réflexivité assez intéressante qui ne sera pas pénalisée, sauf si elle est beaucoup partout. Voilà, donc...
Il y a une petite précision parce qu'on me dit
sur la situation B.
T'entends de pas.
Non, mais je suis
sûr. Ah oui, d'accord. Ouais.
Est-ce que c'est tiré au sort ou choisi ? Donc c'est écrit choisi.
C'est choisi. Vous choisissez la situation B, mais on va revenir sur la situation B. Là, je suis encore sur A. Alors, on va continuer sur A pour passer sur B. Voilà, donc vous avez la grille d'évaluation qui est page 19 de la circulaire. Alors c'est page 18 plus exactement. Donc situation A, vous avez les critères qui sont les critères énoncés dans le référentiel. Vous avez quatre niveaux d'acquisition: très insuffisant, insuffisant, satisfaisant, très satisfaisant. Et puis là il n'y a pas de surprise si vous voulez par rapport à ce qu'on avait écrit dans la définition des épreuves dans le référentiel pour E4-2. Alors, ce que je vous dis là, c'est vrai pour E4-2, mais il faudrait faire la même chose pour E5, mais je fais plus simple. Et puis, on a effectivement des descripteurs. Mais ça va. Donc, vous avez, vous retrouvez les quatre niveaux très insuffisants. Donc, on a un candidat, si vous voulez, qui est en situation, il ne parvient pas à assurer la production. Enfin, globalement. Il est en situation de subir, il a besoin des professeurs pour expliquer, enfin pour faire ce qu'il a à faire. Voilà. Donc là, on est dans des difficultés pour faire. Donc très insuffisant, vous regarderez les critères les descripteurs que l'on donne pour ces situations d'évaluation, pour E4-2 et E5. Exécute, on a un étudiant qui globalement arrive à reproduire de manière assez conditionné, on va dire ça comme ça, voyez, il met en œuvre le logiciel préconisé selon un mode opératoire, donc il exécute selon le mode opératoire, il décrit les productions, donc on est sur un niveau qui est vraisemblablement en deçà d'un niveau BTS, c'est-à-dire qu'il a besoin systématiquement d'avoir appris, répété, pour être en situation d'exécution.
Une question, peut-on utiliser la grille de situation A ?
Ouais, je finis. Et puis, d'autant plus que je vais y répondre. Et puis, on arrive au niveau, donc à ce qui nous apparaît comme étant au-dessus de la moyenne, le niveau de maîtrise et le niveau expert. Donc le niveau de maîtrise, on a effectivement des candidats qui sont capables de justifier, d'expliquer comment ils l'ont fait. Ils présentent les critères de choix de l'outil logiciel, ils analysent ses productions, etc., en justifiant. Donc on est effectivement sur des candidats qui vont être en situation de justifier ce qu'ils ont fait, le pourquoi ils l'ont fait, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, on a la situation dans laquelle le candidat est expert. Alors, il n'y a plus de diapositive. Entendu, c'est quelqu'un, enfin, un étudiant qui n'est pas du tout autonome par rapport à ce qu'il fait. Donc, on est sur des étudiants qui sont extrêmement fragiles d'un point de vue technique et de la communication également. Exécute, on est de l'ordre du mode opératoire. Donc, il sait faire, mais avec une autonomie qui est quand même limitée. On peut se poser la question d'ailleurs de l'adaptation de cet étudiant à un autre environnement numérique. La maîtrise, il sait justifier, hein, ce qui est vraisemblablement le terme, l'occurrence la plus forte sur le niveau maîtrise. Vous voyez, il analyse, il justifie. On justifie, etc. Et puis, il y a le niveau expert, donc c'est un candidat qu'on trouve dans toutes les classes où, effectivement, on va être non seulement sur une justification, mais sur une argumentation et peut-être même sur des propositions permettant d'améliorer le niveau ou les démarches qu'il a mis en œuvre. Voilà. Donc, on est sur ce niveau. Voilà, on vous propose cette grille qui indique les descripteurs de manière assez précise. Et puis, donc, en fonction des observations que vous avez pu recueillir, eh bien, voilà. En fonction des observations que vous avez pu décrire, vous remplissez, vous renseignez. Alors, situation B, j'en ai perdu au passage. Donc, vous renseignez cette grille. Très insuffisant, etc. Donc, en fonction des informations que vous avez pu recueillir. Alors, une question qui était posée assez souvent, on vous propose quelques outils, ça n'a pas de but de normalisation, on voulait vous montrer ça, donc des petits outils qui sont utilisés par des collègues, on a la situation professionnelle. Voilà, vous avez les niveaux. Alors, on pourrait discuter 5 niveaux. En tout cas, moi, je ne voulais pas que ça soit 4 pour ne pas retrouver le très insuffisant, l'insuffisant. De petites choses, de petits outils que vous pourriez avoir. Vous retrouvez les 6 compétences de la grille. Alors, dans le cahier des charges qui a pesé sur le concepteur de ce petit document, de ce petit fichier, de ce petit applicatif, c'était d'éviter qu'on retrouve dans la grille de situation A ou que le suivi de chaque situation professionnelle inscrite dans le passeport se fasse sur les mêmes niveaux de critères que pour la situation A. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait 4... niveau, alors donc on m'en a mis 5, ça aurait pu être 6, d'ailleurs c'est peut-être mieux s'il y en a 6, pour éviter de choisir la zone intermédiaire comme étant c'est le 3 ici d'ailleurs. Voilà, donc on a une première situation professionnelle, le candidat, l'étudiant fait son travail, et en cours de situation professionnelle, le professeur va recenser des informations. Ce n'est pas une fiche de situation A, on est bien d'accord, mais il va observer le travail qui a été fait, il prend de l'observation, et puis il va indiquer le niveau où en est l'étudiant. Donc l'intérêt, si vous voulez, c'est à la fois de rendre compte du travail qui a été effectué par l'étudiant, et puis le niveau où il en est sur chaque compétence. Donc, voilà, donc si on fait bouger, vous avez repéré, hein, le graphique bouge si... si je passe à 4 par exemple, hein, tout fonctionne, donc c'est relativement simple d'utilisation. Ça permet de visualiser à la fois où en est l'étudiant et puis quels sont ses acquis et ses points faibles, etc., dans la situation qui a été évoquée, bon, qui a été travaillée. Même chose pour la situation 2, etc. Donc on a un classeur pour le professeur qui suit les processus, pour les professeurs qui suivent les processus, et puis on a une synthèse qui apparaît ici, voilà, et donc qui indique à la fois là où en est l'évolution du parcours, qui recense les différents niveaux de maîtrise de la compétence, et qui peut l'aider à récupérer des observations. On peut aussi noter des affaires, hein, voilà, sous la situation, on peut noter, conseiller l'étudiant, notamment les leviers de progrès actionnés, etc. Pour ceux qui sont adeptes des définitions de concepts maîtrisés, oui ou non, on peut avoir aussi un oui ou un non, et on peut conseiller l'étudiant comme ça. Voilà. Donc le travail est assez simple. Ce que je ne voulais pas, effectivement, donc le cahier des charges est respecté, on n'a pas du tout la grille d'évaluation de la situation A. Bon, même si les intitulés de compétences sont là, on a 5 niveaux et on n'a pas à faire pour remplir la grille de la situation A la somme ou la moyenne de ce qui aurait été fait par l'étudiant. Voilà, alors... il y a une question, voilà, qui était posée. Alors, est-ce qu'on note ou pas? On a un total de points acquis sur un maximum de 30. Donc là, je suis pas tout à fait stabilisé par rapport à cette affaire. Si cette ligne 24 est enlevée, c'est-à-dire qu'on ne produise pas une note à chaque situation professionnelle, une note sur 14 sur 30, on sait ce que ça veut dire quand on était étudiant. Bon, il ne faudrait pas non plus que la somme de la moyenne des situations prises en compte pour la situation A, les situations professionnelles prises en compte pour la situation d'évaluation CCF, situation A, donne la note sur 20 pour la situation A, parce que bon, vous connaissez toutes les procédures d'harmonisation. Donc je me pose des questions effectivement par rapport à ce total de points acquis. Voilà, je pense que d'ailleurs aujourd'hui, ça fait partie des questions qu'on a eues avec l'auteur, le concepteur de cet applicatif. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'enlèverai cette ligne-là pour éviter que l'étudiant fasse le lien ou calcule sa situation A à partir, ou la note qu'il aura pour la situation A à partir de tout ce qu'il aura eu tout au long de la formation sur chacune des observations prises en compte dans cet applicatif. Bon, il y a un deuxième exemple sur lequel je vais passer plus rapidement. Donc l'auteur est parmi nous cet après-midi. J'aurais pu lui laisser présenter son... On a un outil qui est peut-être plus précis, puisque vous voyez que pour les critères production réalisée, on a à la fois la qualité et la conformité. Donc on est sur un niveau plus fin où la compétence liée à la situation A est plus finement repérée. Donc, je pense que l'idée est bonne. On va au plus fin des critères d'évaluation. Mais on retrouve, puisque vous voyez qu'on a une évaluation par cadran, on retrouve le très insuffisant, on peut retrouver, en tout cas ça peut être traduit comme ça par les étudiants, en très insuffisant, je ne sais plus quel était le troisième, maîtrise et expert. Voilà. Donc on pourrait retrouver, pourquoi pas, une évaluation sur une échelle de 1 à 5, par exemple, pour que les étudiants ne fassent pas la moyenne de leur évaluation, de leurs critères, et en déduisent une note. Voilà, donc on a des critères, et puis la note apparaît ici, ce qui me gêne vraisemblablement un peu. Je pense que ma proposition, c'est effectivement d'enlever cette colonne. on est sur une évaluation formative et peut-être qu'effectivement on tente à tout intégrer, ce qui peut être un peu compliqué derrière pour gérer la situation A pour laquelle il faut absolument que vous ayez la main. Voilà, donc c'est des petits outils assez simples hein, qui vous permettent de recenser, de synthétiser les prises d'informations. Je vous rappelle que sur le site du CRCF, on a mis en ligne, c'est Daniel Perrin-Toinin qui a mis en ligne un outil à la grille d'observation qui avait été présentée par Sabine Lestrade au moment du séminaire, du dernier séminaire à Paris, qui elle est, à mon avis, plus centrée sur ce que fait l'élève, plus dans l'esprit du fil de l'eau, où on observe le travail au plus près des élèves, y compris d'ailleurs en échangeant avec eux, et on recueille des informations sous forme qualitative sur ce qu'il a, sur ce que l'élève a compris, etc. Là, vous avez un exemple de ce qui est utilisé aujourd'hui en classe. C'est vraisemblablement sujet à amélioration. Hein. Je pense que la question de la note, pour moi, aujourd'hui, elle est réglée. Il ne faudrait pas que ces outils suivis soient des outils pour produire automatiquement une note. Il ne faudrait surtout pas qu'évaluation, pour vous, pour les étudiants, soit synonyme systématiquement de notation. Mais on va reparler de ça un petit peu plus tard, la question de la notation du travail des étudiants. Voilà, donc allégez-vous de cette tension autour de la note, on va retravailler un petit peu ça avec les auteurs de ces outils, mais on voulait vous présenter ça pour vous montrer des exemples d'applicatifs développés et utilisés maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai terminé sur E4-2 et E5 pour la situation A. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout est clair pour la question A, hein, pour résumer, l'objectif c'est de faire au plus simple, au plus proche de ce qui se passe en formation, sans ajouter de temps formel, ni pour vous, ni pour les étudiants. Voilà, donc c'est sur la base des observations que vous faites quasiment au quotidien, dans l'acte normal de professeur, de votre métier de professeur. Pour les professeurs, pour les inspecteurs, c'est du métier de professeur, pour recueillir des observations et à un moment donné, en fin de formation, de pouvoir les consigner dans la grille d'évaluation A. Pas de questions?
Si,
une question.
Comment passer de la grille à la note?
Alors, c'est notation par profil. C'est notation par profil, donc pour tous ceux qui travaillent sur les jurés de concours, vous voyez comment ça se passe. Globalement, on a 6 critères. S'il y en a 3 d'un côté, 3 de l'autre, sans qu'il y ait hiérarchie, eh bien, on est à 10. Voilà. Si le candidat est dans le « je suis un expert pour toutes les compétences, pour tous les critères », il n'est pas très loin du 20. Si il est dans « je subis » ou le « très insuffisant », tout au long des 6 critères, il sera vraisemblablement assez proche du zéro. Voilà, alors du zéro, j'imagine pas un instant qu'un étudiant normalement formé puisse être dans le zéro, mais toute l'échelle des notes entre 0 et 20 peut être utilisée sur cette situation A. Ce sera la même chose sur la situation B d'ailleurs, mais on est sur une notation par profil. Voilà.
Des questions. Une expertise en STMG
par rapport à ça. Oui, il y a une expertise en STMG. Rapprochez-vous de vos collègues de STMG qui enseignent au STMG sur les épreuves, sur la partie pratique de l'épreuve de spécialité, donc ce qu'on appelle le projet. L'évaluation se fait en 2 temps, de manière très très proche d'ailleurs à ce qu'on a ici. Sauf qu'en BTS-CG, c'est le même professeur, la même équipe qui accompagne l'étudiant pendant les 2 temps d'évaluation, la situation A et la situation B. Et globalement, on est sur les mêmes principes. Voilà.
Il y a une question. Peut-on remplir des bulletins semestriels qu'avec des appréciations ?
Oui, c'est possible. Donc la question, c'est peut-on remplir des bulletins semestriels qu'avec des appréciations ? La réponse est oui, mais uniquement pour les sites de temps de formation en situation professionnelle. Pour les autres, pour les processus, donc ils sont d'ailleurs souvent regroupés par binôme, alors P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 étant seul. Vous, normalement, c'est noté, il y a une note. Mais si on regarde bien sur P1, P2, P3, P4, on est d'abord sur une évaluation par E4-1, donc on peut imaginer qu'il y ait des entraînements à l'étude de cas, à l'épreuve E4-1, et c'est vraisemblablement ces notes qui vont être prises en compte aussi dans la moyenne. Peut-être les temps aussi de formation qui donnent lieu à des situations professionnelles. Et puis, les ateliers professionnels, on les sort. Bon. On a fait ce choix parce qu'à un moment donné, il faut trouver des compromis. C'est pas forcément la situation la plus... Voilà, comme P7, on aurait pu trouver P7 dans les autres processus. Là, dans le livret scolaire, on tente à sortir P7, ce qui est un tout petit peu contradictoire, mais un tout petit peu seulement à ce qu'on se disait précédemment sur l'intégration de P7 aux autres processus. Voilà, bon, d'autres questions ? Voilà, bon, je vais passer très vite hein, sur la situation B, donc vous avez repéré le principe. Les questions sont les mêmes que... Enfin, les questions qui nous sont posées par rapport à la situation B, à la fois pour E4-2 et pour E5, sont du même ordre, que pour la situation A. Bon, vous avez repéré que la situation B, il y avait un temps vraiment de présence identifié formellement qui associe à la fois les professeurs qui constituent la commission d'interrogation et l'étudiant. Donc le support de l'évaluation, c'est une des trois situations professionnelles présentées par le candidat dans son dossier, donc la commission choisie. Vous m'avez parlé de tirage au sort tout à l'heure. Voilà, pour moi c'est un choix. Voilà. Le choix, il s'opère comme vous l'entendez. Évidemment, vous connaissez le candidat, ou les professeurs connaissent le candidat. En tout cas, quand il s'agit de CCF, on aurait été sur des preuves ponctuelles. Bon, ben voilà, la commission ne connaît pas le candidat, donc n'a pas forcément d'a priori. Il faut que ce choix soit relativement neutre pour le candidat. Bon, a priori, voilà, vous avez vu qu'il y avait un certain nombre de situations professionnelles qui étaient recensées dans le passeport. Ce n'est pas non plus un nombre très très important. On demande au candidat d'en choisir trois. A priori, ces trois situations professionnelles pour lesquelles il est relativement à l'aise. Donc, il me semble qu'on est sur un choix qui s'avère relativement neutre pour le candidat. Bon. Comment évaluer ? Eh bien, on mène un entretien d'explicitation. Un entretien d'explicitation, c'est sur le comment. Donc, on amène le candidat à justifier ce qu'il a fait, à expliquer pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, quels étaient les choix d'ailleurs auxquels il a été confronté. Et puis, expliciter, c'est aussi mesurer la capacité du candidat à dire comment il ferait s'il devait être confronté à des aléas, à des éléments un petit peu différents. Donc on fait varier, la commission d'interrogation fait varier des aléas de manière assez simple. Sans que ce soit une révolution de tout cela par rapport au contexte, mais simplement, on peut dire, voilà, on a besoin de pouvoir relancer les clients qui ont des difficultés de paiement ou qui arrivent en retard par rapport à leurs échéances. Comment feriez-vous ? Ce n'était pas forcément une question qui était posée initialement dans la situation professionnelle. Donc on pose une question, et si on voulait faire ça, que feriez-vous ? Voilà, donc c'est un petit peu cet état d'esprit dans lequel il faut travailler les aléas. On ne va pas demander, par exemple, sur E5, de refaire complètement la maquette de calcul de coût pour passer de 2 à 3 produits, parce que pendant le temps de l'épreuve, de la partie pratique, de la situation B, pendant les 20 minutes, on n'aurait pas le temps de tout refaire. Voilà. Et puis la question, c'est quand évaluer ? Quand évaluer ? Si à la fin du parcours de formation, après la situation A, voilà, donc la situation A est traitée, on peut passer à la situation B, donc tout le parcours de formation est terminé, ça peut même être après les écrits. Peut-être que quand je dis même, le même est de trop, ça peut être après les écrits. Voilà, les écrits, c'est guillemets, travailler sur la situation A et la situation B après les écrits ne pose pas tellement de problèmes. Bien au contraire, ça permet encore de gagner du temps de formation. Je crois que beaucoup d'académies d'ailleurs commencent les interrogations sur E6 en ce moment, donc une grille, mais les principes sont identiques à ce qu'on a présenté ce matin, tout à l'heure sur la situation A, sauf qu'effectivement on rajoute un critère qui est capacité à prendre en compte les ajustements demandés, donc la fameuse capacité à prendre en compte les aléas qui sont soumis par la commission d'interrogation. Voilà. Dans les questions qui ont été posées, est-ce qu'il faut qu'il y ait un entraînement à la situation B ? La réponse est évidemment non. On est sous du CCF. Ne perdez pas de temps à préparer les étudiants à se préparer à la situation B, parce que c'est du temps pris sur la formation. En revanche, dans les moments d'échange avec eux, vous pouvez très bien introduire de l'aléa dans nos réflexions. S'il y avait eu ça, qu'auriez-vous fait ? Ou à la fois les évaluer en termes, les évaluer d'un point de vue, à la fois sur la compréhension des démarches, mais également.
Donc,
la question est importante. Là, on nous fait remonter une question. Comment traiter les étudiants redoublants de la dernière session du BTS CGO ? La première nuance, c'est que eh bien, les candidats qui ont.
Ah non, là, c'est compliqué.
À une épreuve 10 ou plus à une épreuve du BTS CGO peuvent conserver le bénéfice de leur épreuve.
Ça y est, ça marche.
Alors, dans la grille, dans le tableau, dans la dernière page du référentiel, vous avez effectivement une dispense, des correspondances entre U4. C'est depuis le début un candidat qui aurait eu 10 et plus à l'épreuve 5. De 2016 ou de 2015 ou de 2014, etc., peut conserver sa note pendant 5 ans, donc il va la conserver l'année prochaine, et pour eux aussi, c'est la même chose. Voilà, donc tout premier élément de réponse, c'est au maintien des notes. Que vous posez par rapport à la transition CGO-CG, c'est les candidats qui n'auraient pas leur moyenne en E6 CGO et qui devront repasser 6 CG, parce que là, pour le coup, les différences sont assez sensibles. Sur E4-2 et E5, alors les dispenses DCG, c'est trop tôt, je vous la dirai tout à l'heure, mais enfin ça nous permet de faire la pause avant de passer à E6. Donc les dispenses de DCG, elles sont en cours d'instruction aujourd'hui. On a eu un avis d'expert. On a eu un avis d'expert. Je ne peux pas vous en parler maintenant. Nous, ce qu'on a demandé, enfin, je vous l'avais dit en suffisamment tôt, ce qu'on demande, c'est, mais sans vous affirmer que ça pourra être obtenu, c'est de pouvoir maintenir toutes les dispenses, sauf. Parce qu'on ne se battra pas pour cette dispense pour financer l'entreprise, parce qu'on estime effectivement que les étudiants sortant de BTS CGO et peut-être encore plus de CG ne seront pas à la hauteur de ce qui est demandé en DCG sur finance d'entreprise, notamment parce que les documents financiers sont fournis en BTS alors qu'on leur demande de les concevoir en DCG. Et en revanche, on demande l'attribution d'une dispense en anglais. On attend la commission d'experts, donc il doit travailler fin du mois. Mais après, il y a tout un circuit de signature assez long, puisque trois ministères sont sont concernés d'expertise et de publication des documents, des textes. Voilà, donc on va passer sur 6 s'il n'y a pas d'autres questions. Il y a une question aussi qui me semble importante, c'est est-ce qu'une situation professionnelle peut couvrir P5 et P6 et P7? La réponse est bien évidemment oui, rien n'interdit. Voilà, c'est une question qui vient de la Réunion. P1, P4, oui, alors oui, la réponse est oui. Mais elle va être décortiquée en deux, une fois pour P1, donc pour l'épreuve E4-2, pour P1 et P4, donc pour l'épreuve E4-2, et une deuxième fois pour P5, pour l'épreuve E5. Alors, il faudrait associer à cette situation professionnelle P1, P4, P5 et P7. P7 est quasiment incontournable sur une situation professionnelle, on l'avait dit à un moment donné. Alors, ils peuvent présenter, c'est la même situation professionnelle travaillée en formation, donc qui associerait P1, P4 et P5 et P7, mais elle va être décortiquée en deux, scindée en deux, une fiche pour P1, P4, P7 dans le dossier E4-2 et P5, P7 pour le dossier E5. Voilà. Voilà.